Et alors, il passe de la bonne musique.
Eh bien, je crois que c'est une équipe inédite. C'est la première fois que vous êtes tous réunis là, même si vous êtes tous déjà venus. C'est parti, Boris.
Eh ben, écoute, je vais envoyer tout ça.
Allez, voici Radiocratie. C'est parti.
C'est bon, vous l'aurez voulu. Après, ne venez pas pleurer.
Bonjour, bienvenue dans Radiocratie. On est le lundi 14 mai 2018. Il est 18h et on est en direct depuis le studio. Vous écoutez Radiocratie comme tous les lundis de 18 à 19h sur Radio Primitive, fréquence 92.4 à Reims et via radioprimitive.fr partout ailleurs. Aujourd'hui, l'émission numéro 118 de Radiocratie. Je vous rappelle simplement que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook qui s'appelle Radiocratie. Vous pouvez écouter les podcasts de l'émission et le mail c'est radiocratie@gmail.com. Le 14 mai en 1610, c'est Louis XIII qui devient roi de France suite à l'assassinat de Henri IV par Ravaillac. En 1643, c'est Louis XIV qui devient roi de France suite à la mort de Louis XIII. Un peu plus tard, le 14 mai 1948, c'est la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Et il y a pile un an, jour pour jour, Emmanuel Macron était investi en tant que 25e président de la République française. Et aujourd'hui, 14 mai, c'est l'anniversaire du réalisateur de Star Wars, George Lucas, qui est né en 1944. Et c'est aussi l'anniversaire de Michel Simès, qui est né en 57. Pour les décès, il y a eu celui de Sidney Bechet, en 1959 et de Frank Sinatra le 14 mai 1998. Radiocratie, c'est une semaine sur deux des débats, discussions chroniques, etc. Une semaine sur deux de la musique et aujourd'hui une émission pendant laquelle on va parler du VIH. Il y aura évidemment notre traditionnel blind test en fin d'émission. Et ce soir, ils sont là pour votre plus grand plaisir. Ils vont accompagner vos oreilles jusque 19h. Ils viennent de s'installer autour de la table. Voici mes osos. Tout d'abord, il va finir par s'installer en Suisse pour avoir des tablettes de chocolat pour la réalisation derrière la vitre de la régie. Voici notre Boris National.
Salut à tous.
Et en plateau, tout d'abord, un habitué de Radiocratie, vous le connaissez. Il jardine tellement qu'on le surnomme Mr. Bean. Voici Seraph.
Bonsoir.
C'est sa troisième fois dans Radiocratie, sa deuxième fois en tant que chroniqueuse. Dis-moi si je me plante. Elle est bien placée pour savoir que jamais personne ne gagnera la guerre des sexes parce qu'il y a trop de fraternisation avec l'ennemi. Voici Inès.
Hello.
Il s'est engagé contre la surpêche depuis qu'il a appris que le bar est menacé. Simon.
Bonsoir à tous.
Et enfin, les deux retours, d'aucuns diront depuis les enfers, en tout cas, elle n'a pas là où les têtes de Cerbère au bord du Styx. Elle nous revient du théâtre des ombres, contrairement à Eurydice qui n'a pas pu être amenée par Orphée, nous on l'a ramenée. Voici Audrey.
Bonsoir.
Alors, donc, aujourd'hui, on va donc parler du sida, du VIH. C'est parti. Ouais. Alors, donc, déjà, la première question que je voudrais vous poser à vous autour de la table et à Boris aussi en régie, où en est-on déjà dans la recherche? Est-ce qu'on peut faire un point déjà sur où est-ce qu'on en est dans la recherche sur le sida? Boris, j'ai l'impression que tu veux commencer.
Oh, bah pourquoi
pas.
Eh bien,
allons-y, je t'en prie.
Eh bien, première nouvelle, il y a un médicament préventif qui a été mis au point qui s'appelle la PrEP. Alors, prophylaxie, pré-exposition, en gros, c'est apprendre avant exposition. Ça réduit les risques de contamination à quasiment zéro. Il faut les prendre avant une relation sexuelle.
C'est-à-dire que c'est un médicament qui se prend par exemple 6 heures avant une relation et ça permet de... Bon, le problème de ce médicament, c'est qu'il faut prévoir d'avoir une relation sexuelle à telle heure.
Quelqu'un,
quoi.
Ouais, qui c'est pas risque de l'avoir. Quoi.
Étant donné qu'il a assez peu d'effets secondaires, on peut, si on pense qu'il va se passer un truc, on le prend, on risque pas grand-chose.
Mais c'est pas un outil complet de la prévention des IST parce que ça protège que du
sida.
Enfin, de zéro conversion, mais pas...
Alors sinon, grosse coupe, on a aussi un truc qui s'appelle la capote. Ça marche vachement bien.
Ça sert à quoi?
Tu le mets sur ton sgeg et normalement, ça te protège d'à peu près tout.
Waouh.
Même de la mort.
C'est génial.
C'est pas mal.
C'est le plus efficace.
Surtout des enfants.
Bon, c'est n'oublions pas cette maladie sexuellement transmissible que sont les enfants.
Ensuite, donc sinon, à part la PrEP, il y a aussi quand même, je sais pas ce que vous en pensez, mais une avancée qui est quand même extraordinaire, c'est que au final, aujourd'hui, on meurt plus du sida comme on en mourait il y a 30 ans.
C'est-à-dire en France.
En France, oui, bien sûr, je parle de la France. Enfin, c'est vrai qu'on peut vivre presque normalement, avec une espérance de vie presque normale avec le sida aujourd'hui.
Alors, je vais faire une distinction.
Vas-y, bon,
avec les malades du sida, ceux qui ont déjà la maladie oui. depuis des années, c'est pas la même chose qu'avec les nouveaux séropositifs qui, eux, avec les nouveaux traitements qui sont moins lourds, moins toxiques, ont une vie quasiment normale. Par exemple, un malade du sida qui est malade depuis 30 ans, son taux de mortalité reste quand même assez élevé.
Ouais, donc rappelez pour s'il y a des jeunes qui nous écoutent que être séropositif, c'est avoir le virus en soi, donc on est contaminant, mais on n'a pas développé la maladie du syndrome d'immunodéficience acquise qu'est le sida. On est d'accord avec ça.
Exactement, et à savoir aussi que plus la maladie est déclarée tôt, plus il y a de chances de guérison plus rapidement. Il y a eu une avancée aussi concernant des chercheurs américains qui ont fait des expériences sur des cobayes. En gros, c'était sur des souris et ils ont réussi à enlever la maladie du sida sur ces cobayes. Ça n'a pas encore été testé sur des humains, mais c'est quand même une avancée.
Ouais. Bah, tu me coupes la chic, mais effectivement, c'est une avancée qui a été reconnue en 2015 pour... Alors, je vais citer quand même les femmes qui ont découvert ça, parce que c'est quand même pas rien. C'est Emmanuelle Charpentier, qui est une Française, et Jennifer Doudna, qui est une Américaine du Massachusetts, si je dis pas de bêtises. Et ils ont découvert quelque chose qui s'appelle CRISPR-Cas9.
C'est ça.
Qui permettrait, avec c'est des sortes de petits ciseaux génétiques, de couper des allèles...
Des morceaux d'ADN, ouais.
Voilà, de couper des morceaux d'ADN et du coup de potentiellement tuer le virus latent. Parce qu'il y a le virus actif qu'on peut déjà dégommer grâce à la trithérapie, et il y a le virus latent qu'on a jusque-là pas réussi à virer, et les sciences enthousiastes sont super enthousiastes pour le coup, et se disent qu'avec ce nouvel outil, on peut faire des trucs de fou.
Alors le point négatif, c'est qu'on n'a aucun recul sur la thérapie génique. On ne connaît pas du tout les effets secondaires qui peuvent être ou bénéfiques ou extrêmement négatifs.
L'article se concluait comme ça justement. Découper de l'ADN, c'est pas anodin, et du coup, on ne sait pas quelles mutations peuvent aller derrière. On sait que pour deux souris, ça a marché. Après, de là à l'appliquer à un être humain normalement constitué, c'est pas encore au point. Mais les gens sont enthousiastes. Allez, soyez enthousiastes.
C'est là qu'on voit continuons de massacrer des souris aimablement pour sauver l'espèce humaine.
Ils disaient même qu'il fallait l'évaluer sur les primates maintenant. Donc, je suis désolé pour les amis des animaux, mais la science n'attend pas.
Ouais.
Ça va y aller.
Mais c'est vrai que la science fait des avancées de manière très rapide. C'est hallucinant. Et c'est là qu'on voit que c'est pas la médecine qui va nous soigner dans le futur, c'est la science, c'est vraiment les scientifiques.
La médecine applique.
Oui, bien sûr.
Les avancées de la science, et heureusement qu'on a de la recherche qui est encore là et qui est encore subventionnée, ou que ce soit par des privés ou des publics, mais en tout cas, ouais, ça avance.
Mais si à terme on arrive à guérir le sida, qu'est-ce qu'il en est du vaccin? Au final, on va arrêter les recherches pour le vaccin?
Pour le moment, comme on le dit, c'est sur des souris, donc c'est vraiment pas au point.
Boris,
ça dépend. La thérapie génique, on sait rien. Le vaccin est toujours recherché. Tant qu'il n'y aura pas de deuxième solution, on fera rien. Et si on peut soigner le vaccin, ça restera. La thérapie génique, je pense qu'elle restera toujours aussi plus coûteuse qu'une petite injection.
Ouais, voilà. De toute façon, le dicton dit bien, il vaut mieux prévenir que guérir. Ouais.
Puis la grippe, on en guérit un vaccin. Enfin, je veux dire.
Mais la grippe, on en meurt rarement.
Oui. Mais j'entendais pas mal de spécialistes qui disaient justement, si on arrive à guérir le sida. Ils arrêteraient les recherches sur le vaccin.
C'est probablement parce que ils auraient beaucoup moins de moyens qui seraient mis en place,
oui.
En fait.
Oui.
Voilà, comme disait Boris, on en revient à l'idée du prix. Tout ce qui est neuf est cher, surtout dans la technique, dans la technologie, etc. Dans tous les cas, ça sera pas abordable.
Moi, je vais revenir sur un point. Donc, on parlait de la PrEP. Au début, il faut savoir que la France était l'un des premiers pays à rembourser le TPE. Le traitement post-exposition.
Alors, c'est quoi? Explique ce que c'est.
C'est à prendre dans les 48 heures après une prise de risque.
Ouais.
Idéalement dans les 4 heures. Et on peut y avoir accès dans les services d'urgence des hôpitaux où on rencontre un médecin, etc., qui va nous délivrer une certaine dose. Normalement, c'est pour 3 jours. Après, il faut rencontrer un infectiologue qui va après prescrire le traitement. Et ça se prend, je crois, sur... 3 semaines.
Un mois.
Ouais, voilà. 28 jours, un truc comme ça. Je crois qu'il y a une efficacité assez importante.
Ouais.
Mais l'idéal, c'est aussi de savoir un peu le statut de son partenaire. Pour pas le prendre un peu comme ça par hasard, mais c'est toujours un outil en plus.
J'en discutais il y a pas très longtemps avec une nana qui est médecin et qui disait que ça va aussi être en vente libre maintenant dans les pharmacies, ça. Donc
Je sais qu'il y a les flash tests qui coûtent une trentaine d'euros, je crois,
mais ça soigne rien, c'est pour ça. C'est un
non,
test,
ça c'est quoi. Des dépistages, ouais.
Parce que c'est combien de temps? C'est 3 mois avant de pouvoir être.
Avant la dernière prise de risque, il me semble.
C'est 3 mois pour être dépisté, hein. C'est ça. C'est ça. Et j'aurais aussi vous demander votre avis. On est tous pas très vieux autour de cette table. La vision des personnes séropositives, est-ce que elle a changé ces dernières années, ces dernières dizaines d'années? Parce que bon, en plus le SIDA c'est quelque chose qui est tout récent, c'est les années 80, ça a 35 ans au final, hein, c'est vraiment. Et avant il y avait au tout début il y avait vraiment la vision de la personne séropositive, homme, homosexuel, enfin vraiment
certaines promiscuité, tout ce que tu voulais.
Ouais voilà.
Et
est-ce que cette vision là existe toujours aujourd'hui ou est-ce qu'elle a vraiment changé dans notre société occidentale?
Moi, je pense qu'il y a encore beaucoup de sérophobie.
Ouais.
On en parlait, enfin, dans l'actualité récemment, là, il y a Conchita Wurst, la gagnante de l'Eurovision de je ne sais plus quelle année.
Oui, il y a 3-4 ans.
Qui a failli se faire outer par un de ses anciens partenaires, je ne sais plus. Et donc, il y a toujours quand même je pense qu'il y a quand même un peu des restes de ce qu'on a pu connaître dans les années justement 90 au tout début où on pensait que les personnes malades du sida ou séropositives étaient vraiment contagieuses, un peu comme la peste, etc. Donc,
Inès, est-ce que tu peux expliquer le terme outé? Parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs soient au courant.
C'est quand quelqu'un d'extérieur révèle soit l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou alors dans ce cas précis le statut de sérologie de la personne.
Ouais. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire? Oui. Et il y a aussi un truc aussi, c'est qu'avant, notamment les personnes publiques, quand ils étaient séropositifs, ils ne le disaient pas parce qu'il fallait surtout pas le dire. Je pense à quelqu'un comme Freddie Mercury qui est mort en 91, il l'a dit en 87, je crois. Donc, alors qu'il disait, il fallait pas le dire. Maintenant, il y a quand même, je trouve que les personnes sont quand même beaucoup plus ouverte à entendre. Bon, t'es séropositif, oui, Boris.
Alors, les personnes sont beaucoup plus ouvertes, mais il y a quand même une grosse discrimination, par exemple, aux banques qui refusent une discrimination d'État. Alors, il faut savoir que les séropositifs ne peuvent pas rentrer dans la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, l'armée et la police, parce qu'ils sont déclarés inaptes au service. Il y a une étude qui a été faite par AIDS en 2015. Alors c'est un petit peu vieux.
L'association qui vient en aide aux personnes séropositives.
C'est ça. Ils ont interrogé 440 cabinets dentaires et c'est un résultat accablant. Un cabinet sur trois pratique des discriminations par refus de rendez-vous des personnes séropositives, des traitements différés ou une réorientation sans justification vers les urgences hospitalières.
Les cabinets dentaires. C'est quand même fou, ouais.
Oui.
Et en même temps, enfin, pour rentrer dans la gendarmerie, la police, les pompiers, tout ça, il y a des tests, mais si quelqu'un ne dit pas qu'il est séropositif.
J'imagine que ça fait partie du contrat, donc si on découvre plus tard sur les tests sanguins qui sont effectués sur lui, il ne se prend pas qu'un blâme, en fait, il se fait virer, et probablement qu'il est peut-être même poursuivi en justice.
Donc c'est vrai qu'il y a encore, malgré tout, une discrimination, mais limite presque. Je parle même pas des mentalités, là. C'est vraiment, comme tu dis, Boris, une discrimination étatique. Et moi, c'est ça qui me pose problème, parce que on est dans un pays où, maintenant, il y a le mariage pour tous, des choses comme ça. Enfin, on est quand même si tout n'est pas parfait, on est quand même dans un pays assez ouvert, sur les questions de genre, LGBT, etc. Enfin, je veux dire, je pense que, en Afghanistan, c'est pas la même, hein. Et moi, ce que je me dis, c'est que l'État devrait montrer l'exemple. Alors, les mentalités évoluent, les gens, les particuliers évoluent de manière positive, je trouve. Hein.
On a quand même eu un scandale il y a pas très longtemps où ils réfléchissaient à ne plus rembourser les traitements du SIDA parce que tu avais mal agi si tu l'avais chopé, c'est-à-dire que tu t'étais pas protégé, que tu devais avoir une vie un peu chelou, et donc du coup t'as quand même certaines personnes certains groupes qui pensent que tu l'as cherché, ce qui est quand même criminel
c'est
de dire
tout,
ça.
Ouais. C'est je suis d'accord avec.
Ce qui est quand même criminel.
C'est-à-dire dans l'imaginaire collectif, on a l'impression que si t'as infecté par le SIDA, c'est parce que justement tu as fait une erreur. Mmh. Alors que c'est pas forcément le cas. Il y a différentes façons.
Mmh, bien sûr.
Mais je veux dire, on parle d'une épidémie. Dans tous les cas, c'est une maladie. Je veux dire, il n'y a pas de cette notion de culpabilité derrière qui devrait y être attachée.
Mmh. C'est clair.
Le problème de la culpabilité, pardon, c'est le jugement qui va avec. Et le jugement, il vient justement de des classes sociales qui sont
préservées.
Pour le commun des mortels, prédisposés les plus à avoir le sida. Donc, les homosexuels, les SDF, les gauchistes, et puis finalement toutes les personnes avec qui on n'est pas d'accord, quoi.
Alors, il y a eu quand même une grosse avancée au niveau de la lutte contre les discriminations depuis le 1er janvier 2018. Mmh. Les soins de conservation funéraire sont autorisés sur les personnes atteintes du sida ou d'une hépatite virale. Hein? C'est-à-dire, oui, avant 2018, c'était interdit.
C'est-à-dire que comment ils faisaient les gens qui mouraient, même qui étaient séropositifs et qui mouraient peut-être même d'autres choses, je ne sais pas, comment on faisait?
Ah ben je sais pas, là-dessus je me suis pas renseigné, mais les thanatopompteurs n'avaient pas le droit de pratiquer des soins funéraires.
C'est hallucinant, quoi. C'est quand même fou.
Après, on en parlait avec Inès tout à l'heure. Il y a aussi une évolution par la recherche de savoir quel est le degré de contagion, etc. Tu me disais tout à l'heure qu'au début ils venaient en tenue de masque.
Oui, c'était traité, c'est-à-dire que avant l'avènement de la trithérapie, les malades étaient traités comme il y avait vraiment le sigle sur leur chambre maladie nosocomiale, c'est-à-dire on mettait les combinaisons, ils étaient en quarantaine, etc. Donc tout ça, c'est un peu évolué, même si...
Alors que maintenant, aujourd'hui, on sait que si t'embrasses un séropositif, tu ne deviendras pas séropositif. Oui, il y a des choses qui évoluent aussi.
L'image de Clément Sénou autour de la table. Je suis pas persuadé.
Attention, il y a un sondage IFOP sur la jeunesse qui fait mal au cœur, sérieusement.
Ouais.
Je crois qu'on en reparlera un petit peu après.
Oui, on va en parler juste après de ça. Mais oui, d'ailleurs, à ce propos de ce que tu disais, Inès, par rapport au Toubib qui était en combinaison blanche, tout ça, il y a un film qui est un film des années... fin 90, je pense, que j'ai vu il y a quelques années, qui s'appelait Gia, femme de rêve. Gia, c'est un prénom, G-I-A. Et c'est Angelina Jolie qui joue le rôle d'un mannequin qui se retrouve à un moment avec le sida parce qu'elle a une vie complètement dissolue. Et ce film illustre très très bien la manière dont sont traités les malades du sida dans les années 90, je trouve. Même si ce sont des stars, et peut-être même justement... parce que ce sont des stars. Et le film est très intéressant pour ça à voir, quoi. Parce que le sida, c'est pas que sexuel, tu peux attraper aussi dans une seringue pour les drogués, des choses comme ça, hein. Donc, Boris, tu voulais intervenir aussi.
Moi je trouve que contrairement à ce que tu dis, le sida il reste encore énormément tabou en France. On traite certains malades comme des pestiférés. D'ailleurs, il y avait un témoignage qui est passé il y a pas longtemps sur LCI, je crois, d'un jeune qui est passé en hospitalisation, qui a été mis de côté parce que il avait le sida, machin truc, et sur son dossier c'était marqué en gros rouge VIH++.
Ça veut dire quoi, VIH++?
Il faut savoir que c'était Jean-Marie Le Pen, il me semble, qui était à l'origine d'un terme, les sidéens.
Sidaïques.
C'est ça. Le Pen. Et qui voulait faire des camps.
Je crois qu'il a été condamné pour ça.
Où est-ce qu'il va chercher toutes ces idées?
Je sais pas, mais alors. Eh bien, en parler d'LCI, on va juste passer à la suite. On va s'écouter un petit document qui est très très court, qui dure à peine une minute. Et c'était sur TF1, et c'était le 24 avril 84. Écoutez ça, ça nous place vraiment il y a pratiquement 35 ans, sur le sida. On écoute ça, on se retrouve dans 30 secondes.
Radio primitive.
Tout ça, c'est de l'amusement touristique, de la fantaisie printanière, que c'est les génies latins, quoi!
Le sida serait sur le point d'être vaincu. Le sida, c'est cette maladie qui entraîne l'effondrement du système immunitaire et contre laquelle les médecins étaient jusqu'à présent désarmés. Une maladie qui touche essentiellement les homosexuels et certains hémophiles. Un véritable fléau qui a coûté la vie à plus de 1700 personnes aux États-Unis depuis l'année 81. Les chercheurs français de l'Institut Pasteur étaient déjà parvenus à isoler un virus tenu pour responsable de cette terrible maladie. Et aujourd'hui, ce sont les Américains qui sont parvenus à un résultat identique. C'est du moins ce qu'a annoncé la nuit dernière le secrétaire d'État américain à la santé. Alors les deux virus ne sont pas tout à fait semblables, mais cette nouvelle découverte confirme que l'on est sur le point de connaître avec précision les causes de la maladie. Et l'on peut penser qu'un vaccin sera mis au point dans les 2 ans qui viennent.
Alors, donc, déjà avec ce document, on entend quand même qu'en 1984, ils pensaient qu'il y aurait un vaccin dans les 2 ans, alors que 30 ans après, c'est toujours pas le cas, plus de 30 ans. Et puis là, on voit bien le préjugé, une maladie qui touche les homosexuels et les hémophiles.
Certains hémophiles, pas tous.
Certains hémophiles. Boris,
les hémophiles de droite, ouais. Ils risquent rien.
Ouais. Ça a pas fini parce que quand on va faire des tests de dépistage et qu'on nous demande, qu'on veut savoir si on est malade, enfin si c'est nécessaire de faire un test du SIDA, on vous demande si on est homosexuel, pas si on a une relation anale.
Quand tu donnes ton sang, tout ça, oui. À chaque fois, ils te posent la question comme si c'était un.
Mais d'ailleurs, encore aujourd'hui en France, quelqu'un qui dit qu'il est homosexuel n'a pas le droit de donner son sang, ce qui est quand même hallucinant.
Il faut une période d'abstinence.
Non,
d'un
non,
an,
non,
je crois.
Si, si, il y a cette histoire d'abstinence.
C'est quand même, c'est fou.
Après, donc, si t'es hétéro, partenaire multiple,
ça passe.
Voilà, aucun
ça
problème.
Non, non, si t'es homo,
tu fais des orgies, berbac et tout, dans les backrooms.
Par contre, le mec homo avec le même mec depuis 15 ans, là, ça passe pas. Elle est où la logique?
Non, 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 je tiens à corriger. Si tu as des partenaires multiples et tout le tatouin, ça ne passe pas non plus, en fait. Il faut vraiment avoir une vie d'arien total, qui fait du sport, qui n'a pas d'activité sexuelle ou qu'avec une seule partenaire depuis 10 ans. Et là, tu peux donner ton sang. Donc après, bon.
Une vie d'arien.
C'est un autre débat, mais.
Mais d'ailleurs, il me semble que, on parlait des modes de contamination. Il me semble qu'avant les années 90, on pouvait l'avoir aussi par transfusion sanguine. Il n'y avait pas des tests systématiques et qu'il y a beaucoup de gens qui ont été contaminés.
Il y a eu un scandale comme ça.
Oui, bah, il y a le scandale du sang contaminé. Et donc, il n'y a pas qu'en France, parce que le sida est quand même une vraie catastrophe ailleurs dans le monde, notamment en Afrique. C'est quand même catastrophique cette histoire en Afrique. Je sais plus, mais je crois que le nombre de contaminations à l'année est exponentiel en Afrique. Hein, c'est un truc de fou.
Là, d'après VOA Afrique, plus de 25 millions d'Africains vivent avec le SIDA en 2017. Donc
25 millions, c'est un tiers de la population française. Ouais.
Sachant qu'il y a 36 millions de personnes qui vivent avec le VIH ou le SIDA, d'après Sidaction, donc ça fait quand même
37,5 pour les chiffres 2018.
37 millions et 25 millions en Afrique.
Ouais, d'après VOA, en 2017, ouais.
Ce qui est quand même hallucinant, quoi.
Surtout quand tu sais que les traitements auxquels ont accès le peuple africain, bah c'est pas vraiment les mêmes que ceux auxquels ont accès les peuples français, américains, etc. C'est-à-dire qu'on est encore sur des médicaments de deuxième ou troisième génération, je crois. Donc des vieux médicaments qu'il faut prendre tous les jours par plaquette entière, qu'il faut pas rater une seule journée. C'est très lourd à porter pour un peuple qui a déjà pas mal de problèmes sociologiques.
D'ailleurs, en Afrique, il y a quelque chose d'alarmant. Enfin, en Afrique subsaharienne, 70% des personnes qui sont mortes des causes du sida n'ont jamais cherché à se soigner.
Oui, mais on avait parlé un petit peu au début de l'année, au mois de septembre, avec Sylvia qui était venue nous parler d'un séjour qu'elle avait fait au Togo pendant quelques semaines. Elle est allée en tant qu'infirmière, mais en fait, elle nous expliquait que, elle avait pris un reportage où il y a quelqu'un qui expliquait que de toute façon, les gens qui étaient malades, même qui savent qu'ils sont malades, on leur donne un traitement qu'ils doivent prendre chez eux, mais de toute façon, ils le prennent pas parce que ils mangent pas, donc ils ont pas envie de prendre un médoc, le ventre vide, parce qu'après ils sont pas bien, etc. Donc c'est quand même très compliqué. C'est de faire ce qu'elles peuvent, mais elles sont pas assez nombreuses, elles ont pas forcément assez de moyens. Et c'est vrai que le 90, on peut expliquer ce que c'est, Inès, si tu veux. En Afrique, on est loin d'être au 90. Alors le 90, c'est 90% de personnes qui sont malades qui le savent. Arrêtez-moi si j'ai une connerie. Ensuite, dans ces personnes-là, 90% qui sont soignées. Et dans ces personnes-là, je crois que c'est 90% qui ne développent pas le sida tout de suite. Je crois que c'est ça, 90.
Oui, donc en fait, en Afrique, les gens ne peuvent pas se soigner car ils n'ont pas accès aux soins.
C'est
parce qu'ils n'ont pas d'argent, tout simplement.
Bah oui,
mais j'allais dire, quand on regarde, on parlait aussi des préservatifs. Une des mesures qui serait, à mon avis, essentielle, ce serait de la gratuité.
Bien
sûr. L'idéal, ce serait pour tout le monde, mais pour une certaine tranche d'âge qui soit un peu plus sensible, je pense par exemple aux jeunes, mais en Afrique, quand on voit le prix de médicaments, et rien que se fournir en médicaments de nécessité, je pense pas qu'ils aient accès à des moyens de prévention efficaces, quoi.
Bien sûr.
Le problème, c'est qu'il y a eu de trop gros scandales en Afrique, notamment quand Jean-Paul II il est venu et qu'il a dit que justement le préservatif, c'était néfaste, en fait.
Ouais, et voilà, et ça c'est catastrophique parce que justement
catastrophique parce que ça a fait des millions de morts et puis c'est quand même une figure d'autorité, donc s'il dit ça c'est que
oui. Boris, justement, il y a le nouveau pape qui il y a quelques semaines a dit que sur la question du préservatif, il fallait se fier au principe de réalité, le principe de la réalité était supérieur à l'idée.
Bien sûr, mais c'est vrai que
donc l'Église avance lentement mais elle avance.
OK, merci. Allez, on passe à la suite. C'est parti.
à mourir d'aimer. Ils sont morts d'amour, d'amour si damné. Oh, sida.
Et Barbara, bien sûr. Alors, donc moi, je vais vous demander aussi, les jeunes et la non-information, la désinformation, est-ce que les jeunes sont encore plus mal informés aujourd'hui qu'il y a 10 ou 15 ans ? Moi, c'est l'impression que j'ai, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Oui.
Oui.
On constate dans les associations, quand on fait... moi, je suis service civique à l'association Execo.
Oui, tu peux la citer.
Et on fait des interventions au milieu scolaire, donc on se rend dans les établissements qui nous sollicitent. Collège et lycée, et en fait, il y a une totale désinformation. Et on pensait avec le président Olivier Nostri qu'il y avait un désengagement de l'éducation nationale dans l'éducation à la sexualité et aussi à la prévention des IST, et que il fallait un retour en fait de campagne nationale et d'un investissement du personnel, que ce soit les infirmières scolaires, etc., pour vraiment privilégier cette tranche d'âge aussi. Mmh.
Je vais sortir un petit sondage IFOP.
Vas-y, sort ton sondage.
Très sympa, que je vais utiliser d'ailleurs pendant tout le truc. Il faut savoir que 15% des élèves n'ont jamais été informés sur les risques du sida.
Putain,
ou de différentes maladies sexuellement transmissibles. Et 67% des élèves estiment que la prévention est insuffisante.
Ouais, mais en même temps, t'as beaucoup de jeunes qui se croient immortels et qui se disent, ben non, c'est bon, de toute façon, ça arrive qu'aux autres.
Oui, bah ça, tu les trouves aussi chez les adultes.
Oui.
Ça, je conseille d'ailleurs le film Kids, qui justement parle de gamins qui forniquent entre eux, c'est l'été, c'est la fête, et t'as un des gamins, je dis pas lequel, sinon ça spoil le tout, qui se rend compte qu'il a le sida. Donc, je le conseille pour le côté justement, on se sent immortel et c'est parti, on met sa zigounette partout. La capote, c'est
donc
sympa.
Kids, KIDZ comme les enfants. KIDS comme les enfants.
Quoi?
KIDS.
Ouais, Kids. Comme,
Kids. Je pense que c'est une question de santé publique et qu'il faut vraiment se réengager là-dessus et que ça passe par des moyens sanitaires, etc. Donc,
Et enfin, pour beaucoup de parler avec des ados, que c'est un peu mon taf, j'ai l'impression qu'ils sont très souvent mal informés et qu'il y a des évidences qu'ils connaissent pas. Je sais pas ce que t'en penses, Seraph, toi, mais
mais je pense que c'est aussi compliqué d'informer des ados qui n'ont absolument, apparemment, aucune envie de s'informer.
Oui, quoi. Après, nous, on passe pour des vieux cons, mais.
Bah, d'une manière générale, oui. Après, est-ce que c'est pas mieux de passer pour un vieux con? Moi, je me rappelle que quand j'étais gamin, justement, VIH, je pensais tout savoir, et quand on avait des cours d'éducation là-dessus, bon, bah, je trouvais ça un peu barbant et tout, mais en fait, j'ai appris des choses sans le savoir.
Bien sûr.
Oui, je pense que c'est une bonne chose. Plus on en dit, mieux on le lit, quoi. Enfin, d'une manière générale, même si ça peut paraître barbant et rébarbatif, le problème, c'est que les gamins eux-mêmes feront pas la démarche de s'informer parce que ça a pas l'air intéressant en fait de s'informer sur une maladie qui touche pas 50% de la population.
Je pense que s'il y a aussi beaucoup de représentations culturelles, etc., qui sont véhiculées un peu dans les médias ou dans l'industrie du divertissement, etc., genre ça ne touche que les homos, qu'une certaine catégorie, etc. Non, je veux dire, c'est tout le monde est concerné, donc il faudrait aussi qu'ils prennent conscience de ça et que.
Ou alors peut-être qu'on ne sait pas, et peut-être que l'Afrique, avec ses 25 millions de séropositifs, est un réservoir d'homosexuels. Mais ça. Peut-être.
Je pense pas qu'il y ait plus d'homos en Afrique.
Alors, je vais ressortir mon petit sondage IFOP pour donner les chiffres qui font mal.
Ouais.
Alors il faut savoir que l'étude a été publiée en 2018, mais elle concerne 2017. Tout au long de la scolarité.
C'est il y a pas longtemps quand même.
C'est il y a pas longtemps. Alors 21% des jeunes pensent qu'on peut attraper le sida en faisant un bisou.
Wow. 21%.
Ouais. 18% par la transpiration. Et 19% pensent que la pilule contraceptive empêche la transmission
c'est
des
ça.
Virus.
Ah oui.
Souvent ça.
Ça fait mal.
Ça, j'ai entendu cette année. Ça.
Alors, il y a aussi 26% des jeunes qui pensent qu'il existe un médicament pour guérir le sida.
Ouais. Non, mais c'est fou. C'est fou. Et oui, et en plus, ils ont, pour des fois discuter avec des jeunes, j'aperçois qu'il y a tout le monde qui couche avec tout le monde là-dedans. Et quand on leur dit, mais attendez, vous êtes fous, vous vous protégez pas, s'il y en a un qui est malade, vous êtes tous malades, quoi, là-dedans, dans votre groupe. Oh, mais non, t'inquiète. Enfin, c'est vraiment.
C'est le partage.
Mais
vous connaissez le proverbe, hein, la ch'touille, ça se partage entre potes.
Donc, il y a le 1er décembre de chaque année qui est consacré à la lutte mondiale contre le VIH. Et moi, j'ai accompagné l'association Saga du campus de Sciences Po, qui est l'association LGBT, etc. D'accord. Et on a fait de la prévention, donc on a fait des questionnaires, etc. Mes informations, même au niveau universitaire, oui. Total. Et les jeunes ne se sentent pas concernés quand on leur demande. La dernière, s'ils ont fait un dépistage, les trois quarts ne répondent que non. Enfin. Mmh.
Oui, vas-y, bien sûr.
Au-delà du sida, en fait, je pense que c'est tous les cours d'éducation sexuelle qui sont à avoir, parce que le sida, on devrait même le brandir comme une arme pour dire, voilà, attention, ça c'est dangereux, ça c'est, voilà, c'est ce que vous risquez si vous vous comportez n'importe comment. Voilà les bonnes pratiques, en fait. Et pas uniquement pour contre le sida, mais également contre les chlamydia, contre
les
formes d'IST, et contre le non-respect du corps, de son corps et du corps de sa partenaire. Parce que porter le virus et le transmettre à quelqu'un, c'est faire preuve d'un manque de respect de son propre corps et du corps de son partenaire, en fait.
Bien sûr. Oui.
Il y a aussi un autre problème qui arrive dans la lutte contre le sida, c'est la montée du complotisme. Alors, c'est bête, encore les complots, machin truc. Mais quand on pense que le sida c'est une invention des sionistes ou des américains, ça n'aide pas à se protéger.
C'est pas faux. C'est pas faux. Et puis, juste pour terminer ce que tu disais, Inès, par rapport à l'éducation nationale, je pense pas que l'éducation nationale soit complètement démissionnée là-dessus. Je pense que c'est énormément une question de personnes. Alors, t'as des gens, effectivement, t'as des personnes qui s'en foutent, t'as des personnes qui s'en foutent pas. Et je pense que pour un ado qui a 15 ans ou une ado qui a 15 ans, n'importe, je pense que c'est peut-être plus facile de venir en parler à par exemple les profs de SVT ont un rôle là-dedans. Mais c'est plus facile pour un ado de 15 ans de venir en parler à un assistant à l'éducation ou à quelqu'un qui est jeune, qui est plus proche d'eux, qu'à une prof, j'ai rien contre les profs d'SVT, bien au contraire, mais qu'à une prof d'SVT qui a 60 ans, quoi. C'est peut-être plus compliqué pour un ado. Ouais. Après, des fois, ils ont peut-être plus de mal à s'identifier.
Ça va toucher très peu de gens si c'est sur la base du volontariat de l'enfant qui va venir. Il faut vraiment que ce soit, moi j'ai eu un cours, on a tous eu des cours, et il faut que ces cours soient bien fait, et rappelle que le dépistage est gratuit, que c'est bien anonyme, que tu peux y aller au calme, que tes parents ne sauront rien, que ta partenaire ne saura rien, il faut les rassurer.
Genre, on va souvent voir, les jeunes vont souvent voir les infirmières, mais on les retire de plus en plus des établissements.
Ouais. Allez. Une dernière question. Voilà les jeunes, ce que vous risquez si vous faites pas gaffe. Juste pour terminer, les mesures à mettre en place pour sensibiliser les ados concernant le VIH. Donc, on a parlé à l'école, dans les collèges, dans les lycées, des gens qui expliquent et qui des gens ou les gamins, qui peuvent intéresser les jeunes. C'est ça qui est important, Boris.
En fait, pour faire simple, pour avoir des intervenants de qualité, faut accepter de les payer, faut y mettre les moyens financiers.
Tout à fait.
On va se retrouver à payer des youtubeurs.
Je vais repasser pour un vieux con, mais il suffit d'avoir des gens qui soient motivés pour parler aux gamins d'amour, en fait. D'amour et de respect. Et en fait, avec l'amour et le respect, en fait, on a une société qui marche beaucoup mieux. On a des trucs comme le VIH qui fonctionne beaucoup moins bien. On a plein de choses qui se résoutent très facilement avec un simple concept, celui du respect et de l'amour.
On va trouver aussi des catholiques qui vont venir et qui vont dire oui, le mieux c'est l'abstinence. Ne faites pas l'amour, comme ça vous évitez toutes les IST.
La religion, il faut la dégager de l'équation. Toujours, elle n'a rien à faire à l'école, elle a rien à faire dans l'État. Toujours.
L'amour c'est pas forcément la sexualité.
Sur ces belles paroles sages de Boris et de Séraph, on passe la rubrique Soyons cruels, et cette fois c'est moi qui m'y colle. Alors donc, pour commencer, culture, donc la chanteuse Morane est décédée lundi dernier à l'âge de 57 ans. Alors pour les jeunes, Morane était jury de la Nouvelle Star, mais Morane, c'était surtout ça, Boris. Je travaille à l'underground café. J'suis rien qu'une serveuse automate. Voilà, donc c'était la serveuse automate dans Starmania que Morane chantait là. Ensuite, Société, le gérant d'un Franprix à Paris déclare son magasin interdit aux racistes. Il a même écrit sur une pancarte qu'il a postée à l'entrée du magasin. Dans ce Franprix travaillent, donc je cite, dans ce Franprix travaillent des Arabes, des Noirs, des Asiatiques, des Juifs, des Blancs et autres, et respect aux femmes, donc le magasin est interdit aux racistes. Bon, le mec qui gère un magasin, il a pas compris le monde capitaliste. Et mon gars, c'est très beau hein, ce que tu fais, mais les fachos, il y en a partout, c'est aussi grâce à eux que tu bouffes. Politique, réforme du pôle emploi. Selon le gouvernement, les chômeurs qui refuseront plus de 2 offres d'emploi consécutives pourront être ciblés par des drones qui tirent à balles réelles. Emmanuel Macron s'est félicité de cette méthode révolutionnaire pour faire baisser les chiffres du chômage en France. Je précise que tout ce que je raconte, c'est des conneries, hein. C'est juste pour déconner. Politique encore. Avant son passage chez Jean-Pierre Pernaut, des conseillers d'Emmanuel Macron sont sur le pont. Ils préparent le président aux questions pièges du journaliste, notamment celle inévitable du nouveau rond-point à l'entrée dans Saint-Germain-en-Cambrousse, dans le département du Lot-et-Garonne. Eh oui. Politique toujours. Ça fait maintenant 1 an que tout le monde s'extasie pour Emmanuel Macron, comme quoi il est jeune, qu'il fait de la politique autrement, etc. Et le mec, il a fait l'ENA, comme tous les autres. Il était banquier chez Rothschild, comme Pompidou. Il était secrétaire adjoint de l'Elysée, ministre de l'économie. Il est où le renouveau? Ça fait 10 ans qu'il roule pour les mecs qui vous baissent tous les jours et vous lui caressez les couilles. Alors franchement, plutôt que d'encenser Macron, faites acteur d'un porno, hein, ça aura peut-être le même effet. Et en même temps, Macron, il est soutenu par Alain Minc, François Hollande, Jacques Attali, Bernard Arnault, Vincent Bolloré, Patrick Drahi, Laurence Parisot, Philippe Douste-Blazy, bref. Quand il y a autant de mouches qui te commencent à te tourner autour, c'est que souvent tu pues la merde. Économie. La SNCF fête ses 80 ans, 43 ans si on compte les grèves. Pas plus. Mort maintenant. Un scientifique australien part mourir en Suisse à l'âge de 104 ans. Vous avez tous entendu ça, hein, ce scientifique australien qui a choisi l'euthanasie. Il va en Suisse pour mourir. Moi je dis qu'un scientifique, un grand scientifique n'arrive même pas à se faire mourir seul. Que va-t-on faire des grenouilles et des souris disséquées en cours de biologie dans les lycées? On n'est pas dans la merde. Justice. Aux États-Unis, un Roumain a été condamné à 1 an de prison pour avoir piraté le jeu World of Warcraft. Ça, c'est vrai. Alors, je voudrais m'adresser à tous les Roumains qui nous écoutent. Restez à Paris, restez dans le micro, dans le métro, continuez à jouer du violon, mais surtout, ne tentez pas d'avoir une vie presque normale, ça pourrait vous coûter cher. Petite annonce maintenant, j'ai reçu. Donneur de sperme cherche place de goûteur chez Mousseline pour continuer à cracher la purée. Écrire à Radiocratie. Fait divers, un habitant de Saint-Amand-sur-Fion, charmante petite bourgade du sud de la Marne, Jean Mouloud, aurait réussi à faire une lessive sans même récupérer une chaussette orpheline. Cette épreuve ne nécessiterait, je cite, aucune aptitude ni préparation particulière. Selon lui, les enquêteurs de Darty sont sur le coup. International, Bachar al-Assad a failli mourir. Eh oui, on y était presque. Mais non, il est toujours vivant, notre Bachar. En effet, il avait mis par habitude du chlore dans ses nouilles avant que sa femme lui dise de ne pas les manger. C'est raté, espérons une prochaine fois. Télévision. Nicolas Canteloup, après des années d'essai, peut désormais imiter les célébrités. Tout n'est pas parfait, c'est même approximatif, mais il justifie enfin une partie de son salaire sur TF1. Télévision encore. Mika, jury de The Voice, a appuyé sur le fameux bouton rouge de son siège après avoir attendu le bruit d'une scie à métaux. En effet, lors d'un moment où l'émission n'enregistrait pas, quelques ouvriers ont fait des travaux dans les coulisses et Mika a confondu le bruit avec la voix d'une chanteuse et s'est retourné. L'ouvrier qui tenait la scie à métaux n'a toutefois pas été retenu pour la finale. Télévision toujours, après avoir lancé son émission Marié au premier regard, M6 va lancer son émission Fécondé au premier regard. La diffusion, ça sera le samedi de minuit à 2h du matin, je vous parle à dessin. Et encore, on a échappé pour cette émission au titre Encloque au premier coup de bite, que je sais pas. Bravo M6 qui s'est toujours resté mesuré dans ses programmes. Et enfin, convoqué au tribunal, Mario est accusé par les juges d'avoir surfacturé un sauvetage de la princesse Peach, une arnaque qui aurait été orchestrée par la mafia italienne. Luigi serait le principal intermédiaire des transports d'argent liquide. Merci de m'avoir écouté. Alors,
Tu as parlé de l'Australie. Il faut savoir qu'en Australie, sur les séropositifs n'ont pas le droit de résider au pays plus de 3 mois.
Ah ouais?
Oui.
C'est hallucinant, ça, pour un pays soi-disant occidentalisé.
Il n'y a pas un truc pour les États-Unis, je crois, quand on demande la résidence.
C'est fini, mais par contre, en Russie, il faut donner un test de sida pour pouvoir rentrer sur le territoire.
Ok.
Et 75 pays limitent ou interdisent.
Ouais. C'est énorme. C'est énorme. Eh bien, on s'écoute un morceau de musique et on passe à la suite. C'est Mano Solo, je suis venu vous voir. À tout de suite.
Personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne, même si encore une fois je vous laisse le pire. Les larmes qu'on verse sur la mort d'un homme. Adieu mes amis, je me serais bien battu encore. Adieu mes amours, priez pour moi.
compagnon d'un jour ou d'une année. Déjà tu sais que dans mon cœur même moi j'y flotte encore. Violence et tendresse, mon existence ne tient pas qu'à ma graisse. Je suis esprit avant d'être un corps. Je suis mort mais rien n'est fini. Il reste à ma voix et bien peu d'écrit. Le combat continue sans moi. Tant que quelqu'un écoutera ma voix, je serai vivant dans votre monde à la con. Oh. Avec du sang plein les orbites et même du plastique sur la bite, je vais sûrement être calé à l'examen du grand sage, mais j'en profiterai quand même pour lui dire ce que j'en pense. La résistance, cette engeance, et s'il ne voit pas que je suis un ange, alors qu'il change de boulot. Et s'il veut, moi je prends sa place. Il y aura des filles et de la candia, des passions sans limite. Nous nous battrons des ailes et nous volerons bourrés. Nous mangerons des pommes envenimées et nous crocherons le mal comme un pépin. Nous serons sincères comme jamais et nous serons beaux pour ça. Je suis venu vous voir avant de partir. Il y avait personne, ça vaut mieux comme ça. Je savais pas trop quoi vous dire. Croyez pas que je vous abandonne. Encore une fois, je vous laisse le pire. Je vous laisse le pire.
Vite.
Les larmes vont verser sur la mort. Et nous, tous mes amis, priez pour moi.
C'était Mano Solo. Je suis venu vous voir. Et Simon qui s'amuse à faire des paris au moment où Boris rallume les micros. Vous avez entendu un petit truc juste quand il a rallumé le micro. Boris s'est replié. Boris, faut pas que t'arrêtes de rigoler parce que, faut que tu mettes un jingle. Après, c'est à toi de lire. C'est parti. Voici. Laissons les mots.
Écoute-moi.
Alors aujourd'hui, la rubrique Laissons les mots, c'est pour toi Boris, et tu laisses les mots à
Terry Pratchett. Alors, petite introduction, Terry Pratchett est un auteur de fantasy absurde. Malgré que son monde soit absurde, il se tient scientifiquement. Nous, c'est les lois de la physique. Dans les annales du disque monde, c'est les... J'ai perdu le mot. C'est la narration qui prend le pas.
D'accord. Ok. Et bien, on t'écoute.
Et donc, je vais commencer par lire le prologue, c'est-à-dire les premières lignes que l'on peut lire en ouvrant le premier tome des Annales du Disque Monde.
C'est parti.
Dans un ensemble lointain de dimensions récupérées à la casse, dans un plan astral nullement conçu pour planer, les tourbillons de brume stellaire frémissent et s'écartent. Voyez. La tortue, la grande Atuin, apparaît. Elle fend d'une brasse paresseuse l'abîme interstellaire. Ses membres pesants, recouverts d'un givre d'hydrogène, son antique et immense carapace criblée de cratères météoriques, de ses yeux vastes, comme des océans, encroûtés de châssis et de poussière d'astéroïdes, elle fixe le but ultime. Dans son cerveau, plus grand qu'une ville, avec une lenteur géologique, elle ne change qu'au fardeau. Une bonne partie du fardeau est évidemment due à Beryllia, Tubule, Typhon, l'immense, et Gérakine, quatre éléphants géants dont les larges épaules, bronzées par les étoiles, soutiennent le disque du monde, que la longue cataracte enguirlande sur un vaste parc pourtour et qui surplombe le dôme bleu layette des cieux. L'astropsychologie n'est toujours pas parvenue à établir à quoi à quoi il pense. L'existence de la grande tortue restait du domaine de l'hypothèse jusqu'au jour où Krull, un petit royaume cachotier dont les montagnes les plus proches du bord saillent au-dessus de la grande cataracte, conçut un système de portiques et de poulies à la pointe de son rocher, le plus à pic, et fit descendre plusieurs observateurs par-dessus le rebord dans un vaisseau de cuivre au hublot de quartz, afin qu'ils regardent par-delà les voiles de la brume. Une fois remontés, au bout de leur long perchoir par d'immenses équipes d'esclaves, les premiers astrozoologistes furent en mesure de fournir maints renseignements sur la conformation de la nature d'Atuin et des éléphants, mais qui ne répondaient pourtant pas aux interrogations fondamentales sur la nature et le but de l'univers. Par exemple, quel était le sexe d'Atuin? Cette question vitale affirmait les zoologistes avec une autorité croissante. Resterait sans réponse tant qu'on n'aurait pas construit un portique plus grand et plus puissant permettant de lâcher un vaisseau dans l'espace profond. En attendant, il ne pouvait qu'émettre des conjectures sur le cosmos révélé. Par exemple, une théorie avançait qu'Atuin venait de nulle part pour se rendre nulle part indéfiniment, d'une brasse uniforme ou raptation continue. Une théorie populaire chez les universitaires. Une autre, qui avait la faveur de la religion, voulait qu'Atuin se déplace de son lieu de naissance vers l'heure du frais, à l'image de toutes les étoiles du ciel, elle aussi manifestement transportée à dos de tortues géantes. À l'arrivée, elle s'accouplait dans une étreinte brève et passionnée, une seule et unique fois, et de cette union fougueuse naîtraient de nouvelles tortues qui véhiculeraient une nouvelle série de mondes. On connaissait cette hypothèse sous le nom de théorie du Big Bang ou de la grande secousse. Voilà comment un jeune cosmochélonologiste de la fraction de la réputation continue, alors qu'il testait de nouveaux télescopes grâce auxquels il espérait mesurer l'albédo précis de l'œil droit de la grande tortue Atuin. Fut en cette soirée mémorable le premier observateur extérieur à voir dans la direction du moyeu s'élever la fumée de l'embrasement qui ravagerait la plus ancienne cité du monde. Plus tard, le même soir, absorbé par ses études, il avait déjà tout oublié de l'événement. Ce fut pourtant le premier, et il y en eut d'autres.
Merci beaucoup, Boris. Donc, c'était la préface du disque Monde de Terry Pratchett. Est-ce que vous avez, pour un auteur anglais, ce que vous avez entendu derrière, c'était Purcell, un compositeur anglais. Didon est né, c'était le passage de la mort de Didon, et on est très en retard. Et Boris, maintenant, on passe au blind test. Alors, attention, premier extrait. Alors, je vous dis quand même le thème, c'est les prénoms dans les titres de chansons. Maurice.
Elle est pas terroriste, elle est pas
anti-terroriste.
Léa. Non, je l'interprète.
Louise Attac,
Louise Attac, oui.
Je précise que j'ai pas le droit de jouer, j'ai les noms sous les yeux.
Oui, sinon j'aurais déjà perdu. Merci.
Allez, attention, extrait suivant, musique.
Serge Gainsbourg.
Gainsbourg, c'est Raph.
Bonnie and Clyde.
Non, Melody Nelson.
Ah, autant pour moi.
Très bel album, Melody Nelson. Extrait suivant, musique. Ah, Inès. Vous connaissez tous.
Attends.
Boris dit oui, mais si t'as la réponse, c'est
Led Zeppelin.
Non, c'est pas Led Zeppelin.
Angel de...
Non,
ouais. C'est... Attends.
C'est NG, Rolling Stones.
Rolling Stones, c'est
ouais,
vrai.
J'ai retrouvé grâce au titre. Quoi.
Attention, extrait suivant, musique.
Hit the road, Jack.
Yes.
Mince.
Il a bien vu,
putain. Mince.
Aretha Franklin.
Non, c'est pas Aretha Franklin.
Non, c'est...
Ah, pour voir,
l'auteur, lui, ne voit pas.
Ah, mince. C'est trop, là. Si je pouvais passer
un son.
Non, c'est pas un son.
Non, c'est pas un son, oui.
Merci.
Oui. Caliste Black, aveugle.
Ah, bah, vous connaissez Clee.
Oui.
Je sais pas.
Non.
Je sais pas pour Audrey.
C'est
Ray Charles.
Oh la vache. Merci. Parce que là,
c'est
The Road Jack
de
Ray Charles.
J'ai un blocage.
C'est génial en plus, cette chanson. Allez, musique.
C'est kitsch.
Oui, ça c'est kitsch.
Ah. Je triche pas avec le téléphone, c'est
vrai. Non, je triche pas. Ah, c'est ouais, je connais, mais alors le monde de l'interprète là.
J'en veux le dire.
C'est pas Carlos.
Non, c'est pas Carlos Ditch, moi. Quand tu vas savoir qui c'est, tu verras. C'est pas Carlos.
Petit Vincent.
Non, non plus. C'est Julien Clerc.
Julien Clerc.
Et l'autre, et Seraph, il triche encore.
Je ne triche
même
pas.
Même en trichant, il trouve pas. Et extrait suivant, musique.
Ah, yes.
Ouais.
Yes.
Grand guitariste.
Ouais, très grand guitariste.
Ah, c'est déçu ?
Non.
Non.
Très grand bonhomme avec une voix très reconnaissable.
Motorhead ?
Non. Non, il est encore vivant. Hein.
Metallica ?
Non. Non, c'est pas un groupe, hein.
Eric Clapton ?
Eric Clapton, c'est vrai.
C'est quand tu me dis que c'était pas un groupe que...
Alors Inès, la dernière fois, t'as tout déchiré.
Eric Clapton était sur Guitar Hero 3.
Ah ouais ?
Je me sens honteux, là, de pas l'avoir.
Allez, extrait suivant, musique.
Peut-être plus difficile. Il y a aussi sur Guitar Hero.
Et Santana ?
Oui, peut-être pas cette version.
Pas cette version.
J'adore cette version, je la trouve belle.
Attention.
Ah ouais,
c'est pas Police là.
Roxanne,
non,
Sting.
Non, bah non,
mais là c'est pas Sting, c'est qui ça?
Non, là, c'est pas Sting.
C'est la personne qui chante ou la chanson originale?
Non, non, c'est une reprise. À la base c'est Sting.
Ok.
Police.
Bah, si nous police, titre, ça marche ou pas du coup? Non.
Bon, bah, le titre.
C'est pas Sade.
Sous quoi tu le connais? Non, non, non. Parce que quelqu'un vous connaissez aussi. Hein. Qui est mort il y a pas longtemps d'ailleurs.
Morad,
c'est France Gall.
Non, c'était George Michael.
Ah, bon.
Ah,
oh,
d'accord.
Ouais, ouais.
D'accord.
Allez, extrait suivant, musique.
MC Solar.
MC Solar, c'est vrai.
Caroline.
Ouais. Ouais.
Cool. Assis sur un banc, c'était au printemps. C'était une marguerite.
C'est vrai, ils sont en train de tous vous torcher. 4 pour Seraph, 1 pour Audrey, 1 pour Simon.
D'habitude, j'arrive pas à retenir les prénoms des personnes. Mais...
Allez. Extrait suivant, musique.
J'adore ça. Bachung.
Bachung,
bien sûr. Bachung.
La voix reconnaissable de Bachung.
En fait, je suis aidé parce qu'il y a personne qui est très bon ce soir. Et moi, il me faut la voix, en fait, pour reconnaître l'interprète.
Mais c'est vrai que la voix de Bachung, en plus, c'est très particulière, très reconnaissable.
Il meurt moins de 5 secondes, je fais pas, je suis désolé.
C'est lui, quand Bachung est mort, quand il avait lancé les mouvements à la fac, pour se foutre de la gueule des mecs de droite qui disaient que la culture, c'était pas intéressant, on avait mis Alain Bachung à la musique et à toutes ces choses pas bien rentables.
On avait tagué ça sur le, l'amphi.
Sur l'amphi,
à l'intérieur de l'amphi.
Allez, extrait suivant, musique.
Encore qui
je vous ai reconnu avec la voix.
Ah, c'est qui ça?
Jimmy boit du gin dans sa Chrysler. La presqu'île, le boulot.
C'est Nicolas Sirkis.
Non. Non, non. C'était Souchon.
Alain Souchon. Souchon.
La balade de Jim. Et encore un extrait, musique.
Vanessa Paradis ?
Non. Non,
c'est
moins
pas Véronique Sanson.
Non, non, moins connu.
Juliette Gréco ?
Non.
Jeanne Calment ?
Non, non, non. Non, là, t'es en plein
année
80.
Vartan.
Non, c'est pas Vartan.
Ouais, je connais pas du tout, donc. Liane Farmer ?
Non. Eh bien, c'était Diane Tell.
Je sais,
la balade de la légende de Jimmy.
Okay,
si, celle qui a chanté « Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc ».
Ah ouais, non, je connais Gédré qui a fait ça, mais si j'étais un homme, je serais pas capitaine d'un bateau.
Attention, extrait suivant, musique.
Gédré. Verita Mitsuko.
Verita Mitsuko, voilà, c'est français. Allez, extrait suivant, musique.
Plus difficile, ça. C'est pas Brigitte.
Non. Non, non, c'est pas français. Hein.
Ah, ok.
C'est anglo-saxon. Je vous dis le titre, ça peut vous aider. Le titre, c'est Joe.
Janis Joplin ? Non.
Non.
C'est Hendrix, ça. C'est
sûr. Hendrix.
C'est Hendrix. Pas Daido.
Non.
Ça a changé.
Non, c'est pas Daido.
Du coup, c'est pas Nico Sirkis.
Fantasse.
Non. Je vais faire pas élimination.
Cranberries ?
Cranberries.
Ouais, j'ai reconnu la voix.
Bien joué.
J'ai reconnu la voix.
Bien joué. Attention, extrait suivant, musique.
Pierre Perret ?
Non.
Avec sa pipe ?
Non.
Brassens,
non.
Moi, je n'en voulais pas. Mais il lui fut pourtant facile. Avec ses arguments, de te faire un papa.
Il va vous le dire ce que c'est. Dernier...
Ah,
si.
Non, j'arrive pas à me retrouver. Mais c'est Cécile, c'est... donc. Ah ouais, non, mais il faut que tu me le dises.
C'était parce... Nougaro, Claude Nougaro, Cécile. Ah, merci. Allez, c'est déjà la fin. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés sur Radio Primitive. Donc c'est Seraph qui gagne la main. Vous pouvez retrouver nos podcasts, les émissions,
bravo,
de débat sur le site audioblog.arteradio.com. La copine, si bien, elle a envoyé.
Ma chérie, elle a envoyé toutes les bonnes réponses en fait.
J'étais obligé de cliquer.
Mais je les ai pas, lues, voilà.
Page Radiocratie, pardon, et d'autres infos sur notre page Facebook, hein, qui s'appelle aussi Radiocratie. Merci à Boris en régie, merci en plateau à Audrey, Simon, Séraph et Inès. On était en direct depuis le studio et on se retrouve la semaine prochaine pour une émission musicale et littéraire sur la Corse avec la nouvelle Matteo Falcone de Prosper Mérimée. Tout de suite, c'est les Grégor et toute son équipe. On leur laisse la place en régie, en studio, donc restez à l'antenne. À la semaine prochaine pour la 119e. En attendant, bonne soirée, bonne semaine, portez-vous bien. Ciao.
Au revoir.
Et on se quitte sur Morane. Salut voilà. À tous.
Vers le port du Havre, les baraques et les cargos lourds que l'on rafistole. Et les torchères, les grues patraquent. Les citernes de gasoil. Et toi qui courais dans les. Et ma tête à claque. Moi, qui te croyais ma chose, ma bestiole. Et moi, je n'étais qu'un bout de colle. Lorsque j'entends ce prélude de Bach par Glenn Gould, on s'envole. Et toutes ces amours qui se détraquent. Et les chagrins lourds, les peines qu'on bricole. Et toutes mes erreurs de zodiaque. Et mes sautes de boussole. Toi, les pieds dans le flac. Et moi, et ma tête à claque. J'ai pris les remorqueurs pour des gondoles. Et moi, moi je traîne ma casserole. Dans cette décharge de rêve en Pâques, qu'on bazarde au prix du pétrole, pour des cols blancs et des Korvac et oh, oh, oh. Qui se foutent de Mozart.